Sans réserve, le balado.
Mes parents ont toujours été comme des ambassadeurs activistes de la cause autochtone quand j'étais jeune. Ils m'ont toujours parlé de la réalité, de qu'est-ce qui se passait.
L'engouement d'un gros processus de réconciliation comme ça pour la ville de Montréal, il faut quelqu'un d'autochtone qui dirige ces travaux-là. C'est tellement extraordinaire être maman, puis ça me ramène vraiment à mes priorités. Ça me ramène à terre, finalement.
Aujourd'hui, on passe un moment avec Marie-Ève Bordelot.
C'est un cercle global parce qu'on peut éteindre des feux, mais tout est dans tout. Donc oui, les priorités d'aujourd'hui, qu'est-ce qui est une urgence? Qu'est-ce qui est en crise? Mais il ne faut pas oublier tout ce qui entoure.
Je suis née à Amos, à l'hôpital, mais en fait, ma famille, on habitait à Sainte-Terre. J'avais environ 3-4 ans quand mes parents ont déménagé à Montréal pour le travail de mon père. Mon père, d'un cri, mes parents ont toujours été très fiers de ça, puis ont toujours été très ouverts à me raconter les histoires de comment c'était à Sainte-Terre, de comment c'était à Montréal. Mon père travaillait dans le domaine de la justice. Il était coordonnateur pour les services parajudiciaires autochtones du Québec. Ma mère, elle, non autochtone, mais était toujours très, très active dans le milieu aussi. Elle était cinéaste. Donc, mes parents ont toujours été dans le milieu autochtone. Fait que pour moi, ça a toujours été extrêmement présent, même s'ils ont habité à Montréal. Même si j'ai pas grandi à temps plein sur le territoire, dans le nord, en Abitibi, pour moi, c'est l'endroit où j'ai toujours été le mieux. On y retournait vraiment souvent. On a toujours été très, très, très liés avec la famille là-bas. On a encore un chalet. Encore aujourd'hui, quand j'y retourne, ma famille là-bas, ils sont tellement riches. La culture, les gens, c'est des gens tellement gentils, tellement vrais. Les souvenirs que j'ai, c'est les plus beaux souvenirs. C'est l'été dans le bois avec ma mère, mon père, avec mes oncles, avec mes tantes, avec mes cousins, avec mes cousines. Je suis une très grande admiratrice de tout ce qui est art et artisanat, mais j'ai pas eu ce don. Ma mère, c'est une artiste. Ma tante Virginia, c'est une grande artiste peintre, poétesse. Plusieurs personnes dans ma famille, du côté de mon père aussi, écrivent. Mais moi, non, pas toutes. Moi, ma grande force, c'est vraiment plus au niveau de la politique, les relations entre les individus, les relations entre les personnes. Tout petit, j'écoutais à la table mes parents parler, ça, puis les discussions qu'il y avait toujours chez moi entre eux, mais aussi avec leurs amis, avec les gens de la famille. Ils m'ont beaucoup partagé les grandes injustices envers les Autochtones, le racisme systémique. Donc, moi, j'ai toujours eu, même enfant, pour toutes sortes de sujets, ce grand besoin de justice pour les autres, pour moi-même, peu importe. Puis, dans le fond, c'est vraiment de cette façon-là que j'ai été façonnée. C'est quasiment comme si j'avais pas le choix de par l'éducation que j'ai eue, de par le milieu que j'ai eu, de par les expériences que j'ai eues, que je vais d'une certaine façon travailler moi aussi pour la cause des peuples autochtones. Je savais pas exactement comment ni de quelle façon. J'ai pensé être journaliste, j'ai pensé être psychologue, j'avais beaucoup d'intérêts différents. Puis finalement, parce que justement, je savais pas exactement de quelle façon je devais m'y prendre, je me suis dit, je vais aller en droit. On m'a toujours dit que ça ouvrait des portes. Qu'après ça, on pouvait décider d'être avocat, mais on pouvait aussi décider d'aller dans un différent métier. Fait que c'est vraiment avec une idée d'ouverture que j'ai fait mes études en droit. Puis finalement, pendant mes études en droit, vers la fin, c'est là que c'était comme un peu plus clarifié pour moi que c'était encore plus dans ce domaine-là que j'allais vraiment pouvoir contribuer. J'ai fait mon stage pour un organisme non gouvernemental de Fidji. Puis la directrice de cet organisme-là, qui était une femme autochtone d'eux là-bas, une vraie activiste, une femme forte, convaincue, qui avait peur de rien, qui avait survécu déjà à ce moment-là à deux coups d'État. Elle a été le plus grand role model pour moi dans ma jeunesse, à part mes parents.
Elle s'appelle Angie Heffernan. Puis je me voyais être comme elle. Elle était convaincue et dédiée à son peuple. Qu'est-ce qu'elle voulait, c'est la bonne gouvernance, la démocratie pour son pays, pour les gens de son pays. Puis elle marchait dans une trajectoire très, très droite vers cet objectif-là, sans avoir peur. Puis elle était une vraie leader, une femme forte qui prenait d'autres femmes sous son aile, dont moi. J'ai fait mon stage, mais je voyais que elle souhaitait, d'une certaine façon, me transmettre cette passion-là. Fait que, grâce à elle, j'ai décidé finalement que j'allais faire le barreau puis que j'allais comme continuer dans cette voie-là. Donc, j'ai fait mon barreau. À la fin du barreau, je pars en stage dans un bureau d'avocat. Puis c'est là que j'ai fait mon stage dans le bureau d'avocat qui n'existe plus, là. Mais à l'époque, c'était Morin et Murdoch, avocat. En fait, c'est le bureau de John Paul Murdoch, qui est un avocat de la Nation Cree. J'ai fait mon stage là à Montréal. Puis ensuite, ils m'ont engagé, puis j'ai travaillé environ 5-6 ans pour ce bureau-là. On travaillait pour le Grand Conseil des Cree et pour les organisations de la Nation Cree. Donc, c'est là que j'ai vraiment appris à travailler. C'est là que j'ai commencé à comprendre plus la politique autochtone. Ça a été très, très, très formateur pour moi. J'avais envie de travailler pour les femmes autochtones. Fait que là, le poste de coordonnatrice justice sécurité publique était ouvert. J'ai appliqué, j'ai eu le poste. Puis là, j'ai travaillé vraiment avec les femmes dans les communautés, les leaders de leur communauté. Puis j'ai beaucoup appris d'elles. Ça a été une super expérience au niveau humain, mais aussi c'est vraiment là que j'ai commencé à travailler avec différentes nations. J'ai parcouru le territoire, j'étais allée chez les Inuits, j'étais allée chez les Atikameks, chez les Mohawks. Fait que ça m'a comme vraiment donné une compréhension aussi des autres nations que j'avais pas nécessairement à l'époque. On me demandait beaucoup mes services comme consultante, comme avocate. On pense que le travail d'avocat, c'est genre d'aller en cours, là. Mais moi, je faisais pas de litige. Puis je me suis dit, on a besoin de moi de cette façon-là. Puis ça me tentait de sauter dans l'aventure. Donc, de 2013 à début 2018, j'étais à mon compte. Je faisais vraiment un travail de conseillère juridique, d'accompagnement, travaillais avec les organismes, avec les chefs sur différents types de mandats. Puis ça m'a permis aussi de voyager un peu partout au Canada puis au Québec. Puis j'étais plus jeune, sans enfant, donc ça a été juste extraordinaire les mandats que j'ai eus. Puis la métropole de Montréal débute un processus de réconciliation. Ouvre un poste de commissaire aux relations avec les Autochtones qui va vraiment comme venir accompagner et porter ces travaux-là. J'avais comme cette opportunité-là qui était ouverte de venir vraiment continuer sur un autre niveau complètement avec qu'est-ce que je fais. Puis avec ce grand engouement-là, moi, en tant que femme autochtone montréalaise, je me suis dit, je veux ce défi-là. Qu'on est avocat, qu'on donne des conseils à des organisations, à des gens pour la défense de leurs droits, de leur territoire, ben, il faut avoir la tête froide. Mais il faut aussi comprendre, quand tu viens de cette communauté-là, tu comprends vraiment les enjeux. On parle de tes cousins, on parle de tes cousines, on parle de ton territoire, de tes droits à toi. Donc, ça donne encore une plus grande motivation à faire un bon travail. Quand on parle de réconciliation, il faut commencer par regarder la réalité en face, l'histoire, puis reconnaître qu'est-ce qui a été dans l'histoire, qu'est-ce qui est aujourd'hui, les problématiques qu'on est responsable. Il faut faire un examen de conscience en tant qu'individu, mais en tant que société, en tant que gouvernement, en tant qu'institution. Je comprends que c'est un mot qui est difficile à accepter ou même que ce soit le bon mot pour parler de relations renouvelées. Mais pour moi, on veut renouveler les relations avec les peuples autochtones. Après ça, pour les gens qui disent, ben, réconciliation, ça va pas assez loin, mais je les comprends. Puis en quelque part, ils ont raison. Mais pour la ville de Montréal, je l'entends. Je pense que on est en train de bâtir quelque chose, puis je trouverais ça dommage qu'un mot vienne un peu ternir son effet d'entreprendre. Aujourd'hui, je suis une femme professionnelle d'expérience. Ça fait comme 15 ans environ là, que je travaille dans le domaine. J'ai eu beaucoup d'opportunités, plusieurs chances, tellement d'expérience que les autres devant moi m'ont permis d'avoir. Puis je veux recréer, dans le fond, ces expériences, ces possibilités-là pour les plus jeunes, pour les autres. Je veux être capable d'être un modèle comme Angie. Je veux, moi aussi, transmettre cette passion-là aux autres. Je veux que les autres jeunes femmes et les jeunes hommes aient envie de prendre ces opportunités-là, mais aussi d'être un acteur de changement. De ne pas avoir peur de la compétition des autres. J'ai comme une responsabilité que les jeunes aussi suivent le pas.
Sans réserve, le balado est une production de Production Mustang et Animikissi Digital Production. À la réalisation, Sandy Pinteus. À la gestion et au contenu, Marie-Josée Baudreau. Au mix sonore, Luc Bouchard.